Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. L'Angola va apporter un appui logistique à la CENI pour le déploiement du matériel électoral. Kinshasa et Luanda se sont mis ainsi d'accord. C'est à la suite de la demande de la CENI au gouvernement congolais. Demande des avions et hélicoptères pour déployer rapidement le reste du matériel pour les scrutins du 20 décembre. La RDC reste membre de l'EAC malgré le retrait en cours de la force régionale de la Communauté économique de l'Afrique de l'Est. Cette force de l'EAC sera relevée par une autre force régionale de la SADC, a annoncé le ministre congolais de la décentralisation, Moussa Nyamwisi, sortait d'une audience avec le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu hier à Goma. Et puis, l'invité de ce midi, Major Hassan Keira, officier du bureau du porte-parole militaire de la force de la MONUSCO, il revient sur les interventions de la MONUSCO en Ituri et dans le cadre de la poursuite de l'opération Springbok contre le M23 autour de la ville de Goma. Madame, Messieurs, bonjour. La République d'Angola va apporter un appui logistique à la CENI pour le déploiement du matériel électoral sensible. Kinshasa et Luanda ont décidé de mettre en place la flotte aérienne angolaise pour déployer les fiches des procès-verbaux et des bulletins de vote des élections du 20 décembre 2023 à travers la République démocratique du Congo. Cette intervention arrive après la demande formulée par la CENI au gouvernement congolais afin que ce dernier lui donne des avions et hélicoptères pour déployer rapidement le reste de son matériel. D'autres détails avec vous, Alain Irung-Mouchinj.
La Commission électorale nationale indépendante avait sollicité depuis mardi 5 décembre au gouvernement un appui logistique en vue de l'acheminement du matériel électoral sur toute l'étendue du territoire national. La flotte aérienne angolaise viendra en appui au dispositif mis en place par la RDC. Elle est constituée d'avions de transport et d'hélicoptères, rapporte l'agence congolaise de presse. Après des discussions entre les deux capitales, des avions et des hélicoptères angolais seront déployés dans le ciel congolais pour déposer du matériel électoral sensible, à savoir les bulletins de vote, les fiches sur lesquelles seront rédigés les procès-verbaux des résultats des scrutins. En situation normale, avait indiqué Denis Kadima, président de la CENI, on allait utiliser les bateaux et d'autres moyens ordinaires. Tout ce que nous importons aujourd'hui ne peut venir par la mer. Cela doit venir nécessairement par avion et ce sont des coûts énormes. C'est vraiment une course contre la montre, avait fait savoir Denis Kadima, président de la CENI. Dans sa lettre du 5 décembre, Denis Kadima affirmait avoir urgemment besoin de 4 Antonov 26 et de 10 hélicoptères afin d'être capable de déployer le matériel dans les délai. Rappelons que pour les élections de 2011, l'Angola avait déjà mis à la disposition de la CENI 10 hélicoptères comme appui logistique pour l'organisation des élections.
Pendant ce temps, le candidat président numéro 20 est arrivé au Sud Kivu hier soir pour sa campagne électorale. Dans son adresse à la population de Bukavu sur la place de l'Indépendance, Félix-Antoine Tshisekedi a appelé les jeunes du Sud Kivu à s'enrôler massivement dans l'armée et dans la réserve de l'armée et de la défense. D'autres questions ayant trait à l'éducation, la santé et les infrastructures ont été également abordées. Ce samedi, Félix-Antoine Tshisekedi entame le tour des territoires du Sud Kivu. Des détails avec Emmanuel Elamegi Wakabedi.
Le premier point abordé par Félix-Antoine Tshisekedi devant la population de Bukavu, c'est la guerre qui prévaut dans le Nord Kivu. Le chef de l'État n'a pas hésité de pointer Paul Kagame, le président rwandais, comme auteur de plusieurs tueries et crimes en RDC. À ce titre, les jeunes du Sud Kivu doivent s'enrôler massivement dans les rangs des FARDC ainsi que dans la réserve de l'armée et de la défense. Félix-Antoine Tshisekedi a ensuite appelé la population du Sud Kivu à la consolidation des acquis dans le domaine de l'éducation avec la gratuité de l'éducation de base. Cela avec la possibilité d'étendre cette gratuité au niveau du secondaire. Il a abordé la question de la santé universelle qui est effective avec la gratuité de la maternité et du nouveau-né, mais aussi les infrastructures. Le candidat président numéro 20 s'engage à relier le Sud Kivu à d'autres provinces par route. Le programme de développement local de 145 territoires reste l'un des grands acquis à consolider. Ce samedi, le président Félix Tshisekedi est arrivé à Walungu avant les étapes de Kalehe, Shabunda, Idui, Uvira et Fizi. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Campagne électorale dans la ville de Beni au Nord Kivu. Des murs, des maisons, restaurants, boutiques, officines pharmaceutiques et terrasses sont devenus presque invisibles depuis le début de la campagne électorale. Les volontaires qui travaillent pour des candidats à la députation provinciale et nationale, mais aussi les candidats à la présidentielle, ne laissent aucun espace pour faire leur promotion et faire connaître, dans quelques rares cas, leur message. Constat de Blaise Makasi Nandes. Reportage.
Les murs situés le long des principales artères de la ville de Beni sont les plus visés par ceux qui placardent des affiches des candidats à l'élection présidentielle et aux législatives nationales et provinciales. Boutiques, magasins, pharmacies, restaurants sont régulièrement ciblés par les équipes des candidats. Les murs de la clôture de l'ENERA, situés sur le boulevard Nyamwisi, l'artère principale de la ville de Beni, pour ne prendre que ce cas, est décoré aux couleurs des affiches des candidats différents et partis politiques. Des affiches dont certaines sont accompagnées de photos et slogans des candidats, d'autres par un simple numéro de référence attribué par la Commission électorale nationale indépendante, rivalisent les unes avec les autres. Il en est de même des maisons de commerce situées le long du boulevard Nyamwisi. Ici aussi, murs, portes, fenêtres sont envahis par les affiches. Les tenanciers de ces espaces, muets devant notre micro, dénoncent néanmoins cette attitude. L'un d'eux affirme hors micro que, par expérience, les poseurs de ces affiches ne reviennent plus les retirer une fois la campagne passée. En outre, ajoute-t-il, la qualité de la peinture se détériore parce que la colle utilisée édulcore la qualité de la peinture et laisse des traces sur la surface. Comme quoi, une campagne électorale ne fait pas que des erreurs.
Je vous l'ai dit dans les titres, la RDC reste membre de l'EAC malgré le retrait qui est en cours de la force régionale de la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Déclaration dans la soirée hier vendredi à Goma du ministre Mbusa Nyamwisi au sortir de son audience avec le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, Peter Chirimwami. Le ministre congolais de la décentralisation et de l'aménagement du territoire confirme que cette force de l'EAC qui a jusqu'au 7 janvier 2024 pour retirer ses contingents sera relevée par une autre force régionale de la SADC. Mbusa Nyamwisi, dans ses propos recueillis par la presse du gouvernorat du Nord Kivu.
Je sais d'abord toutes les difficultés que cette population vit et je vois une résilience hors pair. C'est une province qui donnera certainement beaucoup encore à la nation parce que j'espère, moi, d'après tout ce que je sais, des démarches que mène le chef de l'État, les efforts que fournit notre armée pour bouter l'ennemi dehors, je suis certain que cette province va recouvrer la paix dans les jours qui viennent et qu'elle sera un modèle pour beaucoup d'autres. Donc, la force de l'EAC, c'est vrai, nous avons décidé qu'elle quitte. Elle est en train de quitter d'ailleurs. Celle de la SADC est en train de venir. Tout cela, c'est dans la recherche de la paix. Mais ça ne veut pas dire que nous quittons l'EAC. Nous restons membres de l'EAC, de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, parce que une bonne partie de notre pays fait partie de l'Afrique de l'Est. Il y a des intérêts économiques immenses. Ça ne change rien au fait que nous leur disons de quitter du point de vue militaire, parce qu'il y a eu quand même des efforts, certes. Ils ont aidé à maintenir cet feu, mais nous aurions voulu y avoir plus. C'est ce que nous recherchons toujours.
Rappelons que Mbusa Nyamwisi est en tournée dans l'est du pays dans le cadre de la campagne électorale. Entre-temps, les combats ont repris ce samedi vers 9h locales entre les rebelles du M23 et les groupes armés locaux autour de la colline de Ngingwe. Nous sommes bien au nord Kivu, précisément à près de 5 km des agglomérations de Chacha et Kiroche, groupement Mufunishanga, chefferie de Baoundé dans le territoire de Masisi. Des sources locales témoignent que 2 civils ont été tués et 7 autres blessés par des obus tombés sur le village de Chacha. C'était lors de l'occupation de cette colline par les rebelles du M23 dans la soirée hier vendredi. Le récit de Bernard Nyangi.
C'est depuis ce matin 8h45 local que d'intenses combats ont repris autour de la colline de Ngingwe, affirment quelques témoins contactés sur place. Selon eux, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues. Conséquence, les habitants qui commençaient à retourner dans le village se déplacent à nouveau vers Buremana et Minova à l'ouest et d'autres prennent la direction de Saki. Les rebelles du M23, après l'occupation de Karuba au sud de Mushaki, auraient avancé jusqu'à occuper la colline de Ngingwe, surplombant les agglomérations de Chacha et Kiroche. Depuis vendredi soir, les groupes armés locaux tentent de les y déloger. Et c'est lors de ces combats que 2 projectiles sont tombés dans le village de Chacha, causant 2 morts, une femme et un enfant, et au moins 7 blessés parmi les civils, indiquent nos sources. Elles ajoutent que, pendant ces temps, un calme précaire règne encore à Sake et vers l'ouest de Mushaki où, certaines sources parlent d'un pont qui aurait été coupé par les rebelles du 1-23 au niveau de Biambwe, sur la route menant au chef-lieu du territoire de Masisi. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et puis, le département du Trésor des États-Unis d'Amérique sanctionne plusieurs personnes impliquées dans des graves violations des droits de l'homme dans l'Est de la RDC. Il s'agit principalement des leaders des groupes armés. Dans un communiqué rendu public hier 8 décembre, le département du Trésor indique notamment que tous les avoirs et les intérêts perçus sur les avoirs des personnes ciblées se trouvant aux États-Unis ou en possession ou encore sous le contrôle de ressortissants américains sont bloqués. Explication Jean Ganduka Bongo.
Il s'agit de William Yakutumba, fondateur et commandant militaire et leader politique de la milice Mai Mai Yakutumba et de la Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo, une alliance de plusieurs groupes armés opérant dans la province de Sud Kivu. Ce chef de guerre et ses alliés sont accusés d'avoir attaqué des civils et des acteurs humanitaires. Yakutumba a été impliqué dans la perpétration des viols collectifs et dans d'autres formes de violences sexuelles et des violences basées sur le genre. Le deuxième, c'est Willy Ngoma, porte-parole militaire du M23. Le 29 novembre 2020, le M23 a commis une série de meurtres à Kishishe dans le Nord Kivu. Les combattants du M23 ont systématiquement pillé des biens appartenant à des civils et violé plusieurs femmes. Le troisième, c'est Michel Rukunda, commandant et chef de file militaire du groupe armé Tuiraneo. Sous sa direction, Tuiraneo a recruté des enfants qui n'avaient parfois que 12 ans pour garder des positions militaires, mener des patrouilles, collecter des renseignements, participer à des combats, agir en tant qu'escorte personnelle ou travailler en tant que domestique dans des camps militaires, rapporte ce communiqué. Tuiraneo a mené des attaques contre des civils, y compris dans un camp de déplacés internes, et a pillé et brûlé plusieurs maisons et un centre médical. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Notez que ces sanctions américaines touchent aussi l'Ougandais Mohamed Ali Nkalubo, conseiller principal de Daesh RDC. Il y a aussi le Tanzanien Ahmed Mahmoud Hassan Aliani qui avait supervisé la planification de nombreuses attaques pour Daesh RDC. Le cas de celle du 15 janvier 2023 contre une église pentecôtiste à Kassindi en RDC. Direction la province du Bazouélé. Médecins sans frontières s'est dit satisfait de ses interventions d'urgence dans cette entité. MSF a pu prendre en charge plus de 8000 cas de rougeole chez les enfants, dont plus de 3500 cas simples et 487 compliqués. C'était dans la période comprise entre le 17 août et le 30 octobre 2023. D'autres réalisations ont été également portées à la connaissance de la presse au cours d'une conférence organisée hier à Kisangani. Jacques Moukonkolé, reportage.
Ces interventions d'urgence ont consisté en la prise en charge des enfants souffrant de la rougeole, non seulement à Bouta mais aussi à Titoulé, Dingila, Likati et Bondo, a précisé le docteur Jean-Paul Kasokwa, médecin de l'équipe d'urgence de MSF Kisangani. Ils ont pu soigner aussi 430 enfants atteints de malnutrition aiguë. Au terme de leur mission dans le Bas-Ouélé, ils se disent satisfaits puisque leur objectif était de réduire la mortalité liée à la rougeole et renforcer la vaccination de routine.
Les 3500 enfants que nous avions soignés, nous avions enregistré 12 décès. Et quand nous divisons les 12 décès par rapport à 486 cas hospitalisés, nous sommes à un taux de létalité de 0,1% qui est dans les normes. Et si nous les divisons encore dans tous les nombres de patients que nous avions reçus, en tout cas le taux de létalité sera encore très bas. Ce qui signifie que cette intervention était une réussite.
Outre la prise en charge des cas de rougeole et de malnutrition, MSF dit avoir réhabilité les forages d'eau à l'hôpital général de Bouta, favorisant ainsi la permanence de l'eau dans cette information médicale. Le grand défi à relever dans cette zone enclavée, dit-il, est de sensibiliser les parents sur l'importance de la vaccination de leurs enfants afin d'éviter la recrudescence des épidémies. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, 20e journée internationale de lutte contre la corruption, ce 9 décembre 2023, à l'Équateur, l'événement est célébré sous le signe de la transparence, a indiqué le directeur provincial de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OSEP en sigle. Au regard des élections générales du 20 décembre, l'OSEP recommande à cette occasion la sincérité à toutes les parties prenantes, mais aussi une parfaite accessibilité à l'information dans les domaines qui concernent l'opinion publique. Un extrait du message du directeur provincial de l'OSEP Équateur, Taylor Lompoko, recueilli par Paul-Richard Malengela.
Dans le contexte électoral, les pratiques corruptives sont perçues comme des actes criminels, immoraux et la trahison de la confiance publique. Pour nous, la journée internationale de lutte contre la corruption doit être l'occasion pour réfléchir et de nous recentrer sur les stratégies de lutte contre la corruption. Les responsables gouvernementaux, les responsables de l'application des lois, les fonctionnaires, les représentants des médias, le secteur privé, la société civile, les universités, le public et les jeunes ont tous un rôle à jouer pour unir le monde contre la corruption. Nous en appelons donc aux différents acteurs dans le secteur de la justice d'être regardants en cette saison électorale en fait de pourchasser les germes de la corruption pour garantir l'état des droits où la justice est opposable à tous.
Taylor Lompoko en appelle également aux différents acteurs dans le secteur de la justice d'être regardants en cette saison électorale afin de pourchasser les germes de la corruption pour garantir l'état de droit où la justice est opposable à tous, a-t-il dit. Campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. L'ONG Fondation Chris Ngal, basée à Kinshasa, vient de boucler sa tournée de sensibilisation des élèves dans les écoles. Elle était le jeudi à l'Institut Bobo Koli de Binza Delvo, dans la commune de Ngaliema, ici à Kinshasa. Le coordonnateur de cette fondation explique le travail réalisé et dresse un bilan positif de ses descentes dans cet extrait choisi par Babel Mpongo Masimango.
Les 16 jours d'activisme, cette année, les thèmes mondial tous unis, investir pour prévenir les violences à l'endroit des femmes et des filles. La Fondation Chris Ngal a mis en place aussi un sous-thème, tous unis, pour atteindre zéro violation des droits des femmes à l'horizon 2050. Nous avions commencé les descentes dans les écoles depuis le 25 novembre, qui est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'endroit des femmes. Nous avons sensibilisé plusieurs écoles et nous avons montré aux élèves leur rôle dans la prévention et l'élimination des violences à l'endroit des femmes. Aujourd'hui, c'est la fin de nos descentes dans les écoles. Ça a été une réussite pour nous parce que nous avons mis à sensibiliser beaucoup d'élèves à la fois. Nous leur avons montré comment prévenir, comment lutter toutes sortes de violences à l'endroit des femmes.
Actualité internationale.
La mission de l'ONU au Mali a remis hier aux autorités nationales un de ses derniers camps dans le pays avant la fin de son retrait définitif suivant l'exigence de la junte au pouvoir, a indiqué la porte-parole de la MINUSMA. La MINUSMA a transféré ainsi aux autorités maliennes le camp de Mopti dans le centre du pays, un des foyers du djihadisme et de la violence qui ensanglante le Sahel depuis des années. La rétrocession s'est déroulée sans encombre, contrairement à celle récente des camps dans le nord où la MINUSMA avait précipité son départ sous la pression de l'escalade militaire entre armées et groupes armés, a dit Fatouma Takaba dans un message écrit à l'AFP.
L'invité.
Les interventions de la MONUSCO en Ituri et dans le cadre de la poursuite de l'opération Springbok contre le M23 autour de la ville de Goma, tels sont les sujets sur lesquels notre invité revient. L'officier du bureau du porte-parole militaire de la force de la MONUSCO, le major Hassan Keira, s'entretient avec Bernardin Nyangui.
Major Hassan Keira, bonjour.
Bonjour Bernardin.
Alors nous allons commencer en Ituri où la MONUSCO mène des opérations visant à améliorer la situation sécuritaire. Qu'est-ce qu'on peut en savoir?
Ça a été constaté le 27 novembre 2023 pendant une rencontre des représentants de la MONUSCO avec les habitants de Djissa au sud-est de Djougou qui ont signalé l'amélioration de la situation sécuritaire et qui avait facilité le retour de 15 familles déplacées dans le village, la reprise des activités scolaires et la réouverture du centre de santé local. Ils ont demandé à la MONUSCO d'augmenter les activités de patrouille en raison de la présence d'éléments de la CODECO dans la région.
Et pendant ce temps, il y a un incident d'explosion d'un engin non explosé. Quels sont les conseils par rapport à ça? Et qu'est-ce qui s'était passé aussi?
Oui, c'est une explosion qui s'est produite le 30 novembre 2023 dans une école primaire à Ariwara, à 34 km au nord-ouest d'Aru, blessant ainsi 12 enfants, dont 10 filles et 2 garçons. L'explosion s'est produite après qu'un élève a découvert une grenade à l'extérieur du bâtiment scolaire et l'a apportée dans la salle de classe. Dans ce sens, je vais rappeler en cas de rencontre d'un objet suspect ou d'explosif présumé. Premièrement, il ne faut pas ni toucher l'objet ni le déplacer. Et puis, on doit marquer la position avec un bâton, des pierres, des vêtements, un sac ou n'importe quel objet visible et appelez ou écrivez un message à l'UNMAS au numéro plus 243 999 041 046 ou plus 243 82 038 38 32.
Que retenir de l'incident qui est survenu dans le camp de Lala, toujours en Ituri, en début de ce mois de décembre?
Oui, des informations ont été reçues selon lesquelles la CODECO prévoyait d'attaquer les sites de Lala, à 5 km au sud-ouest de Baya Tayobi. Et les personnes déplacées étaient paniquées. Puis une patrouille du bataillon de déploiement rapide du Bangladesh s'est rendue sur place, puis a dominé les zones environnantes toute la nuit et aucun mouvement anormal de la CODECO n'a été observé. Les mécréants se sont enfuis suite à la présence de la MONUSCO dans les lieux. Les habitants et les personnes déplacées ont été très satisfaits de la réponse rapide de la MONUSCO.
Et il y a eu un incendie de quelques maisons au village de Schubert, toujours en Ituri. La MONUSCO est-elle intervenue?
Le 3 décembre 2023, des informations sont reçues concernant des maisons en feu dans le village de Schubert. La patrouille s'est rendue au village de Schubert et elle a rapidement bouclé la zone et maîtrisé l'incendie à l'aide d'un camion citerne. La patrouille s'est ensuite entretenue avec les habitants qui l'ont informé que des inconnus s'était rendu dans le village de Schubert, vraisemblablement pour piller et avait incendié une maison abandonnée. Grâce à l'intervention rapide de la force MONUSCO, les mécréants n'ont pas réussi à incendier d'autres maisons et ont quitté la zone.
Mais pendant ce temps, la MONUSCO aussi, qui est toujours affectée quelque part à l'ONU par les désinformations sur les médias sociaux, il y a des messages qui utilisent par exemple une vieille vidéo pour affirmer qu'un drone de l'ONU s'est écrasé en RDC avec des armes et même de l'or dedans.
Oui, effectivement, des publications sur les réseaux sociaux partagent une vieille vidéo montrant soi-disant un drone de l'ONU chargé de 408 kg d'or, d'armes et de parachutes qui s'est récemment écrasé en RDC. Cependant, le clip en question et montre un drone de l'ONU qui s'est écrasé en novembre 2022 dans le parc national de Virunga, près de Lubero. La MONUSCO a déjà refuté ces affirmations, mais elle continue de circuler sur les médias sociaux. Et il convient d'être prudent lorsque l'on suit ces rumeurs. Le mandat de la MONUSCO est la protection des civils en RDC.
Et nous allons terminer par l'opération Springbok qui est toujours en cours.
Dans le cadre de l'opération Springbok, la MONUSCO a déplacé des troupes du bataillon de déploiement rapide pakistanais du sud Kivu, y compris des mortiers lourds, afin de renforcer la défense contre une nouvelle avancée de UM23. La MONUSCO est déterminée à protéger la population civile des groupes armés, car il ne s'agit pas d'un petit mouvement de troupes, mais d'une projection délibérée de la puissance de combat entre les provinces. Il est à noter que la MONUSCO est prête à projeter sa puissance de combat afin de répondre à une menace. Je répète qu'il ne s'agit pas d'un mouvement de routine, car cela n'a jamais été fait auparavant. Il s'agit d'une réponse aux attaques du M23 contre les civils et d'un soutien à notre partenaire congolais, qui sont les FARDC.
Major Hassan Kira, merci.
Je vous en prie.
L'officier du bureau du porte-parole militaire de la MONUSCO répondait aux questions de Bernardin Nyangui. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.